Radio Vatican, France-Afrique.
Amis auditeurs, bienvenue à l'écoute de ce programme que nous commençons avec la semaine du pape présentée par Stanislas Kambashi. L'actualité politique et sociale en Afrique nous conduira au Burkina Faso, au Tchad et au Mali, entre autres.
Radio Vatican, France et Afrique, Marie-Josée Moindo.
Commençons par l'actualité de l'Église, la parole à Stanislas Kambashi.
Le pape François a reçu samedi en audience les participants au chapitre général des missionnaires et rédemptoristes. Présent dans 85 pays, la congrégation fondée par Saint Alphonse Marie de Ligouerie vient d'élire un nouveau supérieur général, le père Rogério Gomes. Dans les discours qu'il leur a adressés, le Saint-Père est revenu sur les cinq thèmes abordés dans leur chapitre général. Identité, mission, vie consacrée, formation et gouvernement. François les a invités à être disposés au changement afin de répondre avec une fidélité créatrice à la mission du Christ. Ces processus de renouvellement passent à travers une métanoïa, une conversion des cœurs, d'esprit et des structures. Cette réimagination intègre les trois piliers fondamentaux, la centralité du mystère du Christ, la vie communautaire et la prière, a encore dit le pape François. Dans un rescrit rendu public samedi, le Saint-Père a disposé de transférer la compétence de la pastorale du tourisme du dicastère pour les services du développement humain intégral au dicastère pour l'évangélisation. Et samedi dans la soirée, le pape François a célébré la messe pour les corps de la gendarmerie du Vatican. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Le Saint-Père a accepté la renonciation au gouvernement pastoral du diocèse de Bukoba en Tanzanie, présenté par Mgr Desiderius Ruoma. Au chapitre des nominations, le Saint-Père a nommé nonce apostolique en Bosnie-Herzégovine et au Monténégro, Mgr Francis Assisi Chulikat, qui était jusqu'à présent nonce au Kazakhstan, au Kyrgyzstan et au Tadjikistan. Au courant de la semaine qui vient de s'achever, le pape s'est adressé vendredi aux athlètes présents au Vatican pour la conférence organisée par les dicastères pour les laïcs, la famille et la vie en la salle du synode. Il a rappelé la fonction communautaire du sport et sa capacité à surmonter la culture du déchet. Toujours vendredi, le pape François avait reçu une centaine des membres de la fraternité des groupes Saint Thomas d'Aquin à la salle du palais apostolique. Devant les prêtres laïcs et consacrés de cette communauté fondée dans l'Argentine en 1962, François a rappelé tout l'héritage des Saint Thomas dans l'alliance de la foi et de la raison. Jeudi, François a rencontré les participants à un congrès sur l'éducation des personnes réfugiées et migrants organisé à l'Université pontificale grégorienne à Rome. Dans son discours, le Saint-Père est revenu sur l'importance de comprendre les causes de l'exil des personnes réfugiées ou migrantes. Parmi ces motifs de départ, les guerres, les persécutions et de plus en plus les réchauffements climatiques. Poursuivant sa catéchèse sur les thèmes du discernement mercredi, lors de l'audience générale, le pape François a mis l'accent sur l'importance de la prière qui nous permet d'entrer dans l'intimité avec Dieu. Le Saint-Siège a réaffirmé lundi avec force sa position sur les armes nucléaires. Le pape François a qualifié de crime l'utilisation de l'énergie atomique à des fins belliqueuses. Toujours lundi, le pape avait reçu les membres de la communauté Shalom à l'occasion des 40 ans de leur fondation. François avait attiré l'attention sur la centralité de l'action de Dieu dans la liturgie. Dans la matinée de lundi, le pape avait également reçu les sœurs tertiaires capucines de la Sainte Famille réunies à Rome à l'occasion de leur 23e chapitre général. François avait invité les tertiaires capucines à être des prophètes de l'écoute silencieuse dans un monde plein de bruits qui abrutissent l'homme.
Après la semaine du pape, rendons-nous au Soudan du Sud. Mgr Stephen Ameyu Martin Moula, archevêque de Djouba et administrateur apostolique de Torit, a déclaré dans son homélie du dimanche 25 septembre, lors de la messe en la paroisse de Notre-Dame des Douleurs à Torit, que le tribalisme est le plus grand ennemi du pays. Nous ne pouvons pas construire notre nation ou l'Église en les fondant sur le tribalisme. Si nous les construisons sur le tribalisme, nous dirons qu'il n'y a pas de baptême, de communion, de confirmation et nous tomberons parce que c'est quelque chose qui nous divise, a souligné Mgr Ameyu. Le tribalisme ne peut pas aider l'Église et la nation à se développer. Au contraire, il ne fera que conduire certains chrétiens à douter du sacrement. L'archevêque de Djouba encourage les fidèles et les prêtres à lutter contre le tribalisme pour y mettre fin par tous les moyens. En République démocratique du Congo, Jean-Baptiste Malenge Kalunzu nous fait part de la traduction du Nouveau Testament en langue Kiyaka.
Au diocèse de Popokabaka, dans la province du Kwango, le mois de septembre, mois de la Bible dans l'église de la République démocratique du Congo, se clôture avec la bonne nouvelle de la publication du Nouveau Testament en langue Kiyaka, Kouakana, Kwapa, Bulunda, Bwapa. Ainsi se parachève un travail de traduction entamé en 1972 par le père jésuite Robert Hermans, qui avait recouru à la Bible de Jérusalem et à la traduction œcuménique de la Bible. Le Nouveau Testament paraît aujourd'hui dans une langue kiyaka claire et facile, relue et améliorée, mieux comprise par tous les bayaka. L'un des artisans de cette œuvre est M. l'abbé Albert Bisueko, prêtre de Popokabaka.
Grande est notre joie d'avoir 61 ans après la parole de Dieu en langue locale et liturgique du diocèse de Popokabaka pour toutes les 31 paroisses et 4 sous-paroisses dont chacune a 40 CVB. Plus d'1,402,028 habitants.
Monsieur l'abbé Albert Bisueko avait collaboré à l'élaboration en 2015 du missel romain en langue kiyaka. Et en 2022, le nouvel évêque de Popokabaka, Monseigneur Bernard Fansaka, a donné l'imprimatur pour le Nouveau Testament et les psaumes en langue kiyaka. Jean-Baptiste Malenge Kalunzu pour Radio Vatican.
L'actualité de l'Église en Afrique concerne également la rentrée pastorale dans le diocèse de Lokossa au Bénin, Guy Dosuyovo.
L'évêque du diocèse de Lokossa, Monseigneur Victor Agbanon, a présidé le mercredi 28 septembre 2022, en sa cathédrale Saint-Pierre-Claver, la messe de rentrée pastorale 2022-2023, en présence des délégations de tous les agents pastoraux de l'Église locale. Précédé les 25, 26 et 27 septembre d'une session pastorale tenue au centre Henri Viondé, cette Eucharistie a servi en même temps de clôture de l'année écoulée avec l'ouverture de la nouvelle qui a pour thème « Pierre vivante en Église ». Et à la faveur de la conférence inaugurale donnée par la sœur Cécile Frida Apolline Tovo, intitulée « Le diocèse de Lokossa à l'heure de la synodalité », les organisateurs ont invité les participants à réfléchir sur les enjeux de la synodalité, à situer chacune des couches de leur famille diocésaine dans ses responsabilités vis-à-vis des défis à relever pour une église locale plus synodale dans le diocèse. Et Monseigneur Agbanon à l'homélie de se réjouir.
Les sessions pastorales sont toujours pour moi comme une fête de la moisson. Parce que nous nous rassemblons de tous les points du diocèse pour mettre en commun ce que l'Esprit Saint nous a fait vivre.
Guy Dosuyovo, Cotonou pour Radio Vatican.
Passons à présent à l'actualité politique et sociale sur le continent africain. Le calme était revenu samedi matin dans les rues de la capitale du Burkina Faso, Ouagadougou, au lendemain d'une crise entre l'armée et la junte au pouvoir qui a débouché dans la soirée sur un coup d'État et un changement d'homme fort à la tête du pays. Le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, lui-même arrivé au pouvoir en janvier par un putsch, a été démis de ses fonctions par des militaires et remplacé à la tête par Ibrahim Traoré, un capitaine de 34 ans. Au Tchad, le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a condamné samedi le changement anticonstitutionnel de gouvernement au Burkina Faso après le putsch militaire qui a chassé du pouvoir le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo. Le président de la Commission de l'Union africaine appelle à un strict respect des échéances électorales pour un retour à l'ordre constitutionnel au plus tard le 1er juillet 2024. Au Tchad, au moins 11 personnes ont été tuées vendredi dans des affrontements entre éleveurs et cultivateurs dans le centre du pays où l'on enregistre des conflits meurtriers entre communautés nomades et sédentaires. Une dizaine de véhicules des forces de l'ordre ont été déployés sur le terrain et ont essuyé des tirs. Ils encerclent en ce moment les éleveurs et les troupeaux, a précisé le gouverneur local qui a fait appel à l'armée craignant que la violence ne reprenne. L'ex-rébellion Touareg malienne s'est engagée à protéger les civils et systèmes de santé lors des conflits. Des dirigeants de la coordination des mouvements de l'Azawad, une alliance de groupes à dominante Touareg avec aussi une composante arabe qui a combattu l'État malien avant de signer avec lui l'accord de paix dit d'Alger en 2015, ont signé cet acte d'engagement lors d'une cérémonie à huis clos vendredi à Genève en Suisse. Au moins 3 travailleurs humanitaires ont été tués au Soudan du Sud en septembre. Selon le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU OCHA, au total 8 humanitaires ont été tués dans le pays depuis le début de l'année. Une personne travaillant pour une ONG internationale a été tuée la semaine dernière dans un échange de tirs dans l'état de l'unité au centre nord du pays. Le père jésuite Martin Bahati nous introduit à la méditation avec les lectures du 27e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique C.
Mes chers frères et sœurs, les lectures de ce 27e dimanche du temps ordinaire nous invitent à méditer sur la confiance et la foi en Dieu. Augmente en nous la foi, Seigneur. L'exhortation du prophète Habacuc, première lecture, et les paroles de l'apôtre Paul en prison, encourageant Timothée, deuxième lecture, sont les cris des millions de chrétiens à travers le monde qui continuent encore aujourd'hui à être marginalisés, persécutés et torturés et tués à cause de leur foi. Les exactions, les moqueries, les oppressions de tout genre contre les chrétiens sont toujours d'actualité. Mais cela ne les empêche pas de faire preuve d'une foi fidèle et d'un courage extraordinaire. Ils gardent toujours le dépôt de la foi dans toute sa beauté. Car ce n'est pas un esprit de peur que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de pondération. Dans l'Évangile, les apôtres demandent à Jésus d'augmenter en eux la foi. Une demande qui sonne déjà comme une grande prière du croyant. Seigneur, augmente en nous la foi. Cette prière est aussi la nôtre quand nous prenons conscience de nos limites, de notre incrédulité, de notre faiblesse et de notre impuissance. Il ne s'agit pas d'avoir une foi plus grande ou plus petite pour croire ou pour être efficace. Il ne s'agit pas non plus d'évaluer notre foi, petite ou grande, mais de croire tout simplement. C'est la puissance de Dieu qui agit en nous. L'image prise par Jésus de la petite graine de moutarde est très significative. Si vous aviez de la foi, gros comme une graine de moutarde, vous auriez dit à l'arbre que voici, déracine-toi et va te planter dans la mer, et il vous aurait obéi. Rien qu'une toute petite graine de moutarde suffit pour opérer des miracles ou réaliser deux choses apparemment impossibles. Car il faut bien comprendre que rien n'est impossible à Dieu. À la fin de l'Évangile, Jésus nous rappelle une vérité chrétienne importante. Nous sommes des simples serviteurs. Cela signifie que nous sommes au service d'une mission qui nous dépasse, la mission du Christ. Nous ne faisons que notre devoir de rester fidèles serviteurs de cette mission du Christ grâce à la puissance de l'Esprit-Saint qui habite en nous. Aujourd'hui, faisons notre la prière des apôtres et disons ensemble: augmente en nous la foi, Seigneur. Amen.
Pour terminer cette émission, c'est encore le Père Bahati qui nous présente le document du magistère du pape François, Lumen Fidei.
Mes chers frères et sœurs, dans notre lecture de la lettre encyclique Lumen Fidei aux Lumières de la foi, nous commençons à lire le 4e et dernier chapitre intitulé « Dieu prépare pour eux une cité » Hébreux 11, verset 16. Ce dernier chapitre de l'encyclique Lumen Fidei est constitué de 4 points essentiels, à savoir 1. La foi est le bien commun. 2.
la foi et la famille. 3. Une lumière pour la vie en société. 4. Enfin, une force de consolation dans la souffrance. Le chapitre débute directement par le premier point, la foi et le bien commun. Il affirme que dans la présentation de l'histoire des patriarches et des justes de l'Ancien Testament, la lettre aux Hébreux met en relief un aspect essentiel de leur foi. Elle ne se présente pas seulement comme un chemin, mais aussi comme l'édification, la préparation d'un lieu dans lequel les hommes peuvent habiter ensemble. Ce chapitre cite Noé, le premier constructeur qui, dans l'arche, réussit à sauver sa famille. Vient ensuite Abraham, dont il est dit que, par la foi, il habitait une tente, attendant la ville aux solides fondations. Selon l'encyclique Lumen Fide, de la foi surgit une nouvelle confiance, une nouvelle assurance que seul Dieu peut donner. Si l'homme de foi s'appuie sur le Dieu de l'Amen, sur les dieux fidèles, et devient ainsi lui-même assuré, nous pouvons ajouter que cette fermeté de la foi fait référence aussi à la cité que Dieu prépare pour l'homme. La foi révèle combien les liens entre les hommes peuvent être forts quand Dieu se rend présent au milieu d'eux, note le pape François. Il ne s'agit pas seulement d'une fermeté intérieure, d'une conviction stable du croyant. La foi éclaire aussi les relations entre les hommes parce qu'elle naît de l'amour et suit la dynamique de l'amour des dieux. Les dieux dignes de confiance donne aux hommes une cité fiable, note le pape François. À raison de son lien avec l'amour, affirme encore le pontife, la lumière de la foi se met au service concret de la justice, du droit et de la paix. La foi naît de la rencontre avec l'amour originaire de Dieu en qui apparaît le sens et la bonté de notre vie. Celle-ci est illuminée dans la mesure même où elle entre dans le dynamisme ouvert par cet amour, devenant chemin et pratique vers la plénitude de l'amour.
Chers amis, c'est la fin de cette émission. Marie-Josée Moindo-Boisbois, qui vous l'a présentée, vous dit merci de l'avoir suivie. Au revoir et à très bientôt. Laudetur Jésus Christus.
Pour plus d'informations et de nouvelles, consultez notre site internet www.vaticannews.va.